que la différence entre mettre 0$ puis mettre 1$ est énorme versus mettre 1$ puis 10$, par exemple. Tu sais, je parlais avec un de mes collègues qui était dans le monde financier. Il disait, quand on regardait un client, par exemple, je te donne un chiffre au hasard, il y avait 250$ de disponible à mettre dans son REER. Au début, on disait au client, là, une couple d'années, prenez le 250, allez le mettre dans vos REER. Ce qu'il disait maintenant, c'est mettez 10$ par mois dans votre REER. Tu vois-tu la différence entre les deux? C'est-à-dire que le monde, à la fin, 250, c'est un one-off. Il prenait le 250, mettait dans le REER. Le conseiller, au prochain 250, fait qu'il le rappelle dans 6 mois pour dire, hey, vous avez encore 250, vous pouvez mettre dans votre REER. Là, à cette heure, il disait, mettez 10$ par mois, puis qu'est-ce que tu penses qui arrivait? Le monde mettait 10$ par mois, il l'oubliait, puis ça, 10$ se transformait en 1000, 2000, 3000, c'était du recurring revenue, tu sais. Ce que je veux dire par là, l'exemple est peut-être boiteuse un peu, mais pour moi, la différence entre gratuit puis 1$ est bien plus élevée qu'entre 1$ puis 10$. Fait que t'as déjà payé, t'as déjà fait le step de mettre de l'argent dans la machine, si tu veux, tu sais.
Bienvenue au Podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Max et moi, on a toujours une bonne jasette, donc on a décidé de livrer cet épisode en deux parties. Vous écoutez la partie 2 de 2, donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode numéro 1 avec Max, je vous invite à regarder le numéro précédent dans la série des épisodes de podcast. Donc voilà, bonne écoute! Fait qu'aspect vente, qu'est-ce que vous regardez? C'est quoi les KPI principaux là, que vous avez dans votre radar?
Ouais. On a parlé rapidement tantôt tout ce qui ce que marketing nous envoie, ce que les ventes reçoivent. Ensuite, il y a une période de qualification au niveau des ventes. Les gens vont contacter des prospects, à savoir, tu sais, on est chez nous, c'est très inbound marketing. On vend beaucoup de manière très sales assisted, je dirais. On est là pour aider les clients. On n'est pas là pour faire une vente, aucune pression que ce soit, là. On est là vraiment en partenariat avec nos clients, mais il y a quand même une étape de savoir, est-ce que le client, on envoie un petit courriel, par exemple, soit en automatisation pour certains types de clients, soit de façon manuelle avec un account exec ou un account manager pour d'autres types de clients. Ça, c'est très relié, comme je vous disais tantôt, à « c'est-tu mon client idéal? C'est-tu un account qui est gradé haut chez nous? » Par quelle porte qui est rentrée. Ça, ça définit beaucoup chez nous à savoir vers où on va l'enligner selon les différentes tracks qu'on a au ventre. Puis quand il y a une communication qui est envoyée, le client va nous répondre ou il ne nous répond pas aussi, parce que c'est une réalité qu'on vit beaucoup sur la quantité de leads que vous allez avoir. Ça dépend des entreprises encore, mais il y aura beaucoup de clients qui vont juste pas vous répondre. Donc, soit on les met à unqualified, on les renvoie au marketing pour du nurturing finalement. Mais là, des sales qualified leads, ensuite on passe dans le beau tail qu'on vous a présenté dans un épisode précédent, un sales accepted lead. Donc, la vente, il y a une négociation, bref, il y a une démo qui est faite, il y a peut-être des négociations de son prix selon le cas, il y a peut-être un proof of concept à mettre en place. Donc, le taux de conversion entre ce qui a été qualifié par les ventes, ce que vraiment il y a un travail qui est fait au niveau des ventes avec le client, au niveau du customer success aussi, en termes de technique, au niveau technique, à savoir, est-ce qu'il y a une conversation qui est en train de se faire? Est-ce que vraiment on est dans un cycle de vente avec le client? De là, bien évidemment, on crée nos opportunités d'affaires en termes de pricing. Donc, sales qualified lead à sales accepted, une opportunité d'affaires à ce moment-là. Puis après ça, on va aller valider le taux de closing de toutes ces opportunités-là. Fait que ça fait un peu la. Puis sur le modèle du beau tail que je vous ai parlé, vous irez voir l'épisode, c'est en ligne aussi sur Google, là, mais c'est très bien défini ces différentes étapes-là de marketing, marketing qualified lead à sales qualified lead à sales accepted. Lead à une proposition d'affaires puis à une vente finale, finalement. Donc, c'est pas mal ça qu'on traque au niveau du funnel de vente comme tel. Puis, mais t'as une question, vas-y, Joe.
Oui, ben juste pour dire, si beau taille, ça vous dit pas grand-chose, épisode 39, vraiment impressionnant et intéressant d'entendre ça, comment que ça a été appliqué chez Dévolution. Un, c'est quoi, puis deux, comment ça a été appliqué. Je suis curieux de savoir, tu sais, on parle de taux de réponse des prospects, là. Nous, on le voit dans les produits que le lead rentre, on leur écrit quelque chose de pertinent, puis il y a un grand pourcentage qui n'a pas de retour, faut que tu réussisses à remarquer à ce moment-là. Ça ressemble à quoi un taux de réponse de votre côté sur les premières approches, sur les prospects qui rentrent, si jamais tu as de la donnée proche, là?
Là, j'ai pas la donnée proche, là, tu me prends un peu flat-footed, là, mais... écoute, c'est pas des chiffres qui sont... c'est pas, faut pas s'attendre avec... quand au début de votre funnel de vente, surtout, ça dépend tout le temps de qu'est-ce que vous offrez, évidemment, puis c'est quoi le... où est-ce que vous intervenez, en fait, dans le funnel avec vos clients. Mais chez nous, je te dirais que sur une centaine de trials, quand on aura eu 30%, 30-40%, c'est très, très bon, le taux de réponse. Au-dessus de ça, là, j'ai pas les benchmarks, comme je te dis, j'ai pas les chiffres exacts, là, je vais pas me mettre le pied dans la bouche, là, mais en haut de ça, là, c'est excellent, excellent en termes de taux de réponse. Puis il faut faire attention quand on se benchmark tout le temps parce que la littérature va vous dire ah, un taux de réponse d'une version d'essai, ça devrait être autour de 90%. OK, parce que la version d'essai a été envoyée après 3 emails avec le client, il y a déjà une relation qui est créée. Là, on met en place une version d'essai. Puis là, le taux de reconversion est à 90%. Oui, évidemment. Vous avez déjà tout passé le screening du client. Il est qualifié. Vous avez déjà une relation d'affaires avec. Vous avez déjà parlé de ses besoins. Vous avez déjà parlé de peut-être un peu de pricing. Puis là, il est rendu à avoir la version d'essai. Donc, un business model de ce type-là, c'est évident que le taux de réponse sur les versions d'essai va être beaucoup plus élevé que si la version d'essai est disponible sur votre site web pour 14-30 jours directement. Je m'inscris, je rentre mon nom, prénom, entreprise, je clique sur download, puis pouf, je suis en version d'essai. Il faut faire très attention, encore une fois, à comment on interroge ces chiffres-là, puis comment on les benchmark, parce que ça peut nous envoyer sur des très grandes fausses pistes, à savoir, hey, on est donc bien pas bon en taux de réponse. Parce que regarde le benchmark, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais c'est parce que la version d'essai, je me répète, là, mais la version d'essai est pas du tout téléchargée au même moment dans le funnel versus quand c'est très inbound d'un site web à une relation très B2B où est-ce que là, ben, il y a un account manager chez vous, un représentant qui doit faire l'installation pour le client pratiquement dans son infra. Tu sais, c'est deux mondes différents, là. Fait qu'il faut faire très attention avec ça, là.
Petite question peut-être qui va être encore couper l'herbe sous le pied rapidement, mais il y a une philosophie par rapport aux versions d'essai qui est soit A, de forcer d'entrer une carte de crédit dans le système, ou soit B, de pas le forcer pour avoir accès au trial, puis après de laisser l'usager mettre sa carte de crédit. Avez-vous une opinion là-dessus sur est-ce que c'est mieux A ou B? Est-ce qu'il y a plus de conversion en prenant la carte au départ ou à la fin?
Ben, moi, je vais te répondre B, là, c'est-à-dire je demande le moins possible d'informations en amont. Là, ça, c'est évident. Pour nous, mais je peux comprendre dans un modèle beaucoup plus B2C, par exemple, où est-ce que là, les gens veulent tout de suite aller onboarder leurs clients. J'imagine que ça peut faire du sens dans plusieurs modèles. Tu parles de philosophie. Ma philosophie pour les trials, moi, c'est de demander le moins possible d'informations. Je cherche une masse. Je veux que les gens mettent les mains dans mon outil. Il y a plusieurs concepts à travers les trials. Ça aussi, c'est un épisode au complet qu'on pourrait faire ensemble, mais d'avoir quelqu'un, puis la documentation qu'on a, qu'on lit, les différents blogs, la différence même entre de rentrer mon email puis de faire submit trial ou de rentrer mon email, mon nom, prénom, entreprise, pays, industrie, market size, employee size, tout ça, là, le taux de conversion, déjà, là, il décline rapidement entre je te demande de rentrer ton email, tu fais trial, ou je te demande de rentrer 7 informations, 8 informations. C'est assez rapide le nombre de monde, puis vous allez le vivre, vous le savez. Vous cliquez, vous faites comme « Ah, c'est trop long, je passe à un autre appel. » C'est très, très, très fin. Fait que pour moi, déjà de dire, déjà là, ça c'est ma philosophie à moi, de demander le moins d'informations possible. Puis après ça, en plus, de demander une carte de crédit, pour moi, là c'est un step que je peux pas prendre dans mon business, dans notre business évidemment. Mais je suis certain qu'il y a plein de monde qui ont des bons use cases à partager là-dessus. Même si tu veux mon opinion, moi, le moins possible. Le moins possible.
J'ai la perception depuis un an et demi depuis que l'industrie s'est réveillée puis dire que c'est important de faire du profit et non juste de la croissance, là, qu'il y a eu un revirement de situation où ce que on voyait pratiquement ça jamais avant de demander une carte de crédit dans un début de funnel. Alors que là, j'ai l'impression que beaucoup de startups sont encore en mode, faut valider si les gens sont prêts à sortir leur carte de crédit. Donc, ils devancent cette question-là pour juste venir être capable de montrer des métriques à des financiers, dire, regarde, ils voyaient assez de valeur au début, il suffit de bâtir le produit à cette hauteur de valeur-là qu'ils s'attendaient pour avoir un modèle économique viable. Et non, de supposer qu'à un moment donné, ils vont sortir leur carte puis ils sont jamais capables de le faire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui le font, mais juste en parlant là, ça m'illustre que probablement c'est des startups qui n'ont pas encore atteint leur vraie valeur à livrer aux clients puis qui sont encore en train de dire, y a-t-il quelqu'un qui veut payer pour une valeur qui est à venir peut-être, mais qui n'est pas encore là, là?
Écoute, j'ai pas de réponse à donner. C'est super intéressant par contre comme conversation, parce que la différence entre mettre 0$ puis mettre 1$ est énorme versus mettre 1$ puis 10$ par exemple. Tu sais, je parlais avec un de mes collègues qui était dans le monde financier. Il disait quand on regardait un client par exemple, je te donne un chiffre au hasard, il y avait 250$ de disponible à mettre dans son REER. Au début, on disait au client, là, une couple d'années, prenez le 250, allez le mettre dans vos REER. Ce qu'il disait maintenant, c'est mettez 10$ par mois dans votre REER. Tu vois-tu la différence entre les deux? C'est-à-dire que le monde, à la fin de 250, c'était un one-off. Il prenait le 250, mettait dans le REER. Le conseiller, au prochain 250, fait qu'il le rappelle dans 6 mois pour dire, hey, vous avez encore 250, vous pouvez mettre dans votre REER. Là, à cette heure, il disait, mettez 10$ par mois, puis qu'est-ce que tu penses qui arrivait? Le monde mettait 10$ par mois, il l'oubliait, puis ça, 10$ se transformait en 1000, 2000, 3000, c'était du recurring revenue, tu sais. Ce que je veux dire par là, l'exemple est peut-être boiteuse un peu, mais pour moi, la différence entre gratuit puis 1$ est bien plus élevée qu'entre 1$ puis 10$, parce que t'as déjà payé, t'as déjà fait le step de mettre de l'argent dans la machine, si tu veux, tu sais. Fait que moi, ça revient un peu à ce que je te disais au niveau de la philosophie des versions d'essai. De demander en amont, même juste, peut-être même que je vais te charger en amont, c'est déjà un step que moi, je suis pas prêt à prendre parce que je trouve que je m'enlève tellement de visibilité. Ça, on a déjà parlé ensemble dans un autre épisode, mais tout le middle du funnel au niveau marketing, là, c'est-à-dire on fait des grandes stratégies pour entrer plein de monde dans votre site web au niveau des ads, des campagnes, puis on les grab, on les envoie aux ventes, ils closent pas, c'est fini. On sait plus trop ce qui se passe. Il faut les faire vivre dans votre écosystème. Parce que c'est pas vrai que le monde qui demande un trial, on en a parlé au début de l'épisode, je demande un trial, je suis prêt à acheter. Non, tu veux, il demande un trial, puis il vit dans ton écosystème, même si c'est parce qu'il utilise une version gratuite, une version d'essai, mais il est là, puis au bon moment, quand il va être prêt à acheter, là, il va vous contacter pour closer le deal, tu sais. Mais ça, c'est un milieu de funnel-là, là, il est sous-estimé grandement, puis on met pas beaucoup de temps et d'argent là-dessus. Quand on devrait beaucoup plus en faire, bien plus. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, en pratico-pratique, pour répondre à ta question, je m'en fous de savoir s'il va mettre une carte de crédit ou non là, par contre. Mais au lieu d'avoir, mettons, on va dire, 10 trials qui ont mis leur carte de crédit, il y en aurait peut-être 500 qui auraient été dans votre écosystème puis qui n'auraient pas mis de carte de crédit, mais il y en aurait eu 500 quand même qui auraient vécu à travers votre écosystème, qui auraient peut-être contacté. Fait que moi, je suis beaucoup plus dans le type de, on va aller chercher un bien plus gros volume. Avant même de me tirer dans le pied puis de m'enlever de la business potentielle juste parce que je veux aller valider si ou non ils vont mettre une carte de crédit. Mais en même temps, chacun d'autres opinions. Puis éventuellement, on pourrait en avoir ce genre de débat sur votre sur le podcast.
Absolument. Absolument. Autre item au niveau vente que tu vois qui est important de...
Vous les connaissez, votre taux de renouvellement, votre taux de churn, hein, combien de personnes, en fait, il y a deux grands KPI qu'on traque, là. Le premier étant, à quel niveau est-ce que mes utilisateurs vont renouveler ma solution, évidemment. Quand c'est une solution logicielle, par exemple, au niveau des services, on pourra regarder les logos que vous perdez, les logos que, quand je dis un logo, c'est très anglophone, mais quel client on perd, quel client qui est un beau client qu'on est capable d'aller chercher. Qui va vous donner un taux de churn qu'on appelle, là, à quel point je suis capable de... combien de clients je perds, combien de clients que je crée toutes les années, ça c'est un. Puis l'autre qu'on suit beaucoup, c'est le net dollar retention, c'est-à-dire que j'ai vendu justement aujourd'hui, Joe, 1$ de logiciel. L'année prochaine, je te renouvelle, tu vas dépenser 1,40$ chez nous. Ben là, c'est sûr que moi, ça me dit que je suis capable de générer de la business à même les utilisateurs qu'on a déjà chez nous. C'est-à-dire que je t'ai peut-être upsellé, je t'ai peut-être vendu une plus grande quantité de produits ou de services chez vous. J'ai peut-être été en mesure de vous vendre un nouveau module, un nouveau produit, un nouveau service, mais à même ta clientèle existante. Tu parlais tantôt de profitabilité versus croissance, là. Ça, c'est un des ratios que on voit beaucoup à ce temps-ci, surtout selon avec toute l'économie mondiale présentement, c'est à quel point je suis en mesure de leverager l'argent de ma clientèle existante, puis d'aller chercher tout le revenu possible à travers mes différents outils, services que je peux leur offrir. Donc le net dollar retention, là, c'est un ratio qui est très très efficace à suivre pour ça.
Puis ça, est-ce que vous le surveillez de manière soft ou vous êtes dit ça, c'est un KPI vraiment principal à suivre, puis on se donne un target, mettons, de 110% pour l'année prochaine, donc vendre 10% de plus à ce client-là?
Ouais, lui, il est traqué de façon très, très hard, là, c'est-à-dire avec mes collègues des gens en finance qui ont la main mise sur toutes les, bon, l'invoicing, etc., etc. On est capable d'aller chercher ces chiffres-là. Puis lui, c'est un chiffre qu'on regarde de façon pratiquement, je dirais pas quotidienne, là, mais mensuelle, à savoir où est-ce qu'on s'en va dans le cadre de notre mois, avec tel client, on a fait combien en fin de l'année, globalement, on est rendu où. Mais ça donne, celui-là, il est très important parce que ça nous donne un aspect, est-ce qu'on fait une bonne job à faire plus avec nos clients existants? Si oui, pourquoi? Sinon, est-ce que c'est parce que notre taux de croissance est plus bas parce qu'on n'a pas rentré assez de nouveaux clients par rapport au churn? Fait que, tu sais, ça te donne vraiment là, un bon indice à savoir où est-ce qu'on doit s'améliorer dans notre customer journey qu'on appelle chez nous. C'est-tu parce qu'on ne rentre pas d'assez de nouveaux clients? C'est parce qu'il n'y a pas assez de nouveaux leads qui rentrent? C'est parce qu'on ne fait pas un assez bon job avec nos clients existants pour les upseller, les cross-seller? Fait que ça, ça en est un à traquer pour qui pourrait expliquer une partie de votre croissance ou votre décroissance selon, là, mais de dire à la fin de l'année, hey, j'ai eu un taux de croissance de 30-40%. Bon, ben, il y en a combien qui viennent de ma clientèle existante? Pour moi, ça, c'est un no-brainer. Là. Lui, faut que tu le suives vraiment très, très proche.
Et là, c'est toujours se poser la question, est-ce qu'on développe un nouveau produit qui est connexe dans l'écosystème, qui a le même persona qu'on a, ou on ajoute des fonctionnalités dans notre produit puis on charge un peu plus pour ça? Il y a une dualité tout le temps à travers tout ça, j'imagine.
Ouais, ben ça c'est très stratégique, hein. Je te dirais que c'est des discussions que vous avez à avoir avec la haute direction de votre entreprise, là. Puis la matrice de hands-off là, qui existe, là, qui est assez simple. Là. Puis je pense que c'est Boston Consulting Group qui l'avait créé justement, à savoir est-ce que j'attaque un nouveau marché, est-ce que je garde le marché actuel avec des nouveaux produits, etc., etc. Fait que c'est des conversations très de haut niveau à garder en tête, évidemment. Si on veut continuer, sinon, ben c'est ça, en termes de croissance de en vente là, plus précisément, mais de contrat de contract value, total contract value, le TCV, là, l'acronyme, là, c'est-à-dire si je vends, par exemple, sur une plus longue période, c'est-à-dire que le client achète pour 3 ans, mais le contrat, le total contract value va être pour X milliers de dollars, mais il faut le ramener en revenu annuel toujours, en annual recurring revenue, en monthly recurring revenue selon vos business models, évidemment, mais c'est deux autres KPI à regarder selon vos clients. C'est quoi le contrat total que j'ai avec ce client-là, puis comment il me rapporte par année? C'est deux autres que chez nous on traque de très près. Un autre qu'on regarde de près, c'est le average deal size qui nous permet nous de segmenter non seulement de mapper la transaction moyenne, ok, par client qui rentre chez nous, mais on peut ensuite on est capable de diviser notre clientèle en 3 sections chez nous selon la transaction moyenne qu'ils vont venir effectuer chez Dévolution. Ça nous permet d'avoir différentes stratégies selon c'est quoi le average deal size de nos clients. Il y en a d'autres qui existent aussi que nous, moi, je suis moins un fervent. Là. Le plus connu, c'est peut-être le Net Promoter Score que tu connais, le NPS Score. On en a déjà discuté ensemble de mémoire aussi. Je sais pas si tu as un avis là-dessus sur le NPS ou je sais pas si vous l'utilisez chez vous, là.
Ça a toujours l'air du Holy Grail jusqu'à temps que tu le mettes en place. Ça dépend du volume de réponses que tu reçois. Honnêtement, on pense toujours que le data va être mieux que ce qu'on reçoit. Toujours un problème de volume, en tout cas nous autres, de ce qu'on voit là. Et la plus grande plus-value, je pense, du Net Promoter Score, c'est quand il y a des scores négatifs. C'est si on est capable de parler avec la personne après puis d'aller voir c'était quoi l'irritant. Fait que c'est pas nécessairement le... Oui, il peut avoir un trend, puis après ça, le segmenter par type de client, puis dire, OK, tel type de client, il est plus content, puis on va focusser là-dessus, puis c'est généralement ceux qu'on peut monétiser le plus. Mais c'est surtout granulairement ou individuellement, chaque NPS qui rentre, s'il y a une on est qu'à leur sortir l'irritant qui est derrière tout ça puis s'améliorer en conséquence. Si c'est notre persona ciblée qu'on veut convertir, là, ça devient intéressant. Nous, on a fait un spin à un moment donné de le changer avec le CES, qui est le Customer Experience Satisfaction, qui est de transférer la question de à quel point vous seriez prêt à référer quelqu'un à quel point ça a été simple de faire affaire avec. Mm-hmm. Donc, ça s'applique plus dans un contexte transactionnel de service où il y a une petite transaction ou quelque chose qui se passe pour une fois puis que ça peut être long avant que ça revienne à ce moment-là. Donc, on a vu des bons côtés du côté du CS, des bons côtés du niveau du NPS, mais jamais autant que ce qu'on aurait espéré puis ce qu'on lit dans les fameux livres qui nous donnent l'impression que ça va être un wow puis qu'on va, on va avoir la sainte vérité qui va sortir de ça. Je sais pas si tu as eu la même déception de ton côté à le mettre en application. Ouais. Mais c'est ce qu'on a vécu de notre côté, là.
Ouais, moi, c'est des trucs... ça, c'est un des premiers qu'on avait mis en place depuis longtemps chez nous. Puis c'est un des premiers aussi qui a débarqué. C'est très biaisé par qui va répondre à... Tu sais, évidemment, si j'aime ton entreprise, puis tu m'envoies un score comme ça, puis moi, j'aime affaire avec vous autres, c'est sûr que je vais répondre un beau 10 ou un 9 ou un 8, peu importe. Mais si moi, tu m'envoies ça, puis j'aime pas faire affaire avec vous. De prendre mon... Puis là, je te parle des années 2014, 15, 16, le monde, déjà, avait pas mal plus de temps d'attention qu'aujourd'hui, là. Mais de prendre le temps d'ouvrir ton email, d'aller lire ça, d'aller cliquer sur deux, puis te le renvoyer, écoute, c'est une marge. Ce que ça fait, finalement, c'est, à mon sens, c'est que tes résultats sont biaisés par le fait que le monde qui va répondre « anyway, il t'aime déjà », tu sais. Fait que, en bit aussi, c'est différent, là. Tu sais, on parlait du bancaire tantôt. Les voix passées, les chiffres, j'ai été sur des conseils d'administration de différentes banques, là, mais bref, peu importe. Le taux de réponse est beaucoup plus élevé parce que ta banque, même si tu ne l'aimes pas, t'es pogné avec pareil, à moins que tu changes de banque. Là, mais tu sais, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu as un lien avec la banque. Fait que si tu as eu un mauvais service, puis on t'envoie le NPS score après, puis c'est plus un... On dit un NPS score, mais c'est beaucoup plus un survey de satisfaction client, finalement, là, mais... C'est sûr que là, tu vas répondre beaucoup plus. Fait que ces chiffres-là, pour moi, reflètent beaucoup plus la réalité que dans nos business à nous, parce que tout dépendant si c'est un client ou non, là. Mais pour moi, c'est pas c'est pas le NPS précisément. Les sous de satisfaction, c'est différent parce que sont reliés directement à une action qu'un client va faire chez vous. Mais tout ce qui est NPS score, pour moi, ça n'a jamais été vraiment intéressant à suivre de ce côté-là.
Trois points, moi, par contre, que je vois par rapport à ça. Le premier, c'est faut avoir du volume. Si on a un faible volume de réponses, ça crée trop de fluctuations, fait que ça donne rien à ce moment-là. Deuxième item qu'on observe, nous autres, présentement, parce qu'on l'a encore, l'élément du NPS ici, c'est qu'avec les filtres anti-spam puis tests de phishing, souvent, ça va déclencher le clic sur des courriels. Fait que nous, ça nous arrive souvent de contacter des clients qui font « Ah, j'ai jamais cliqué sur ton courriel. » Puis c'est le système en arrière qui est venu cliquer dessus pour aller tester le lien à ce moment-là. Fait que ça vient complètement fausser le système. Toutefois, quand on est dans un développement de produit pour qu'on n'a pas encore le product market fit, je le trouve pertinent l'NPS parce que quand les gens vont prendre la peine de flaguer un mauvais chiffre, ça veut dire que la promesse de valeur que tu as lancée, ça les rejoint. Puis ça les rejoint tellement, puis il y avait tellement de frustration, qu'ils sont tellement frustrés qu'ils prennent le temps de te dire que ça n'a pas rempli cette promesse de valeur-là, mais ils t'envoient clairement un message de dire qu'il y a vraiment un problème à régler, ils seraient vraiment intéressés à ce que ce soit réglé, puis là, ils ont été déçus parce que ça n'a pas livré la valeur voulue, puis là, après ça, on peut la développer, cette valeur voulue-là. Mais ça l'envoie quand même un signal que s'il a pris le temps d'y répondre, c'est parce qu'il était vraiment fâché que tu remplisses pas la promesse initiale que tu as vendue dans une publicité ou dans ton funnel. Donc, dans la recherche du product market fit, des fois, ça peut donner quelque chose d'intéressant dans la validation du problème là, ou de l'irritant chez le client.
J'aime ça, puis en même temps, quand tu l'utilises, quand tu l'as dit tantôt, quand ça te permet de rentrer en contact avec ces clients-là, j'ai plein d'histoires chez nous de clients qui étaient insatisfaits de X, puis quand que quelqu'un réponde à ses... Tu sais, souvent, l'autre aspect, c'est ça, le monde répond, puis ça s'en va dans un système X, puis il y a rien qui se passe, mais quand tu prends le temps d'interagir, chez nous, on le fait à travers l'équipe de support technique quand on a des petits sondages de satisfaction client par rapport à un billet ou à un cas, par exemple, puis quelqu'un a été mal résolu ou pas résolu, on prend le temps d'appeler ces clients-là, de contacter. Déjà là, les clients sont comme « Wow, je pensais même pas que ça triggerait une conversation chez vous ». Puis souvent, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est des opportunités, ben ça, c'est un classique aussi en affaires ou en vente, mais des clients qui sont en maudit après vous
si vous êtes capable de régler leur problèmes ou solutionner, tu peux les transformer en champions assez rapidement. Puis ça, c'est de quoi qui est super important qu'on suit chez nous à travers ce data-là ou ces sondages-là.
Puis ça revient à ce qu'on disait initialement, c'est pas la métrique en tant que telle ou la tendance de la métrique, c'est granulairement l'interaction avec le client, je pense, qui devient pertinent dans ce déclenchement-là du NPS ou du CES ou peu importe. Là.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
Exact. Puis parlant du support technique, c'est vraiment la dernière fonction qu'on voulait regarder aujourd'hui ensemble. Tout ce qui est on a parlé du NPS, des sondages de satisfaction. Vous allez voir l'acronyme CSAT, là. En anglais, Customer Satisfaction, qui est un peu le même concept, mais pour une action plus précise en termes de relation client. Nous, ce qu'on va aller regarder beaucoup au niveau du support technique, du service à la clientèle, c'est les volumes. Okay? Qu'est-ce qui rentre au niveau du support, au niveau du helpdesk, par quel channel qui vont rentrer. Fait que ça, c'est un. De deux, on va aller regarder plus précisément le taux moyen. En fait, je l'ai en anglais, mais je vais essayer de le dire en français. C'est le temps de réponse moyen. Donc, la première réponse est arrivée quand, right? Ou quand est-ce qu'on est en mesure de... en combien de temps on est capable de répondre à un volume plus élevé, moins élevé, par qui, comment. Donc, le taux de réponse moyen puis le taux de résolution moyenne aussi. Parce que c'est bien beau de dire, OK, on a parlé au client en dedans de 45 minutes. Après l'ouverture d'un billet chez nous, mais ça a pris 5 mois à fermer le billet, c'est pas super, tu sais. Donc le taux de résolution et le taux de réponse moyen, c'est deux qu'il faut chez nous qu'on traque assez de près pour être en mesure de qualifier la performance de nos équipes.
Est-ce que vous suivez le par individu après de dire cette personne là
je laisse te donner ta réponse, mais non. Nous, c'est un travail, ça, on pourra en reparler aussi, mais chez nous, ce qu'on a mis en place, c'est un système qu'on a mis en place à travers les différentes équipes qui travaillent très, très proches les unes des autres. Ça a été fait depuis jour 1 pratiquement chez Devolution. Ça n'a jamais été basé sur des personnes comme telles. C'est basé sur un système dont font partie des personnes. Chacun a un rôle à jouer. Chacun doit... jouer son rôle évidemment, mais ce système-là est assez fort pour que on enlève une charge sur l'être humain le plus possible, que l'être humain vienne ajouter de la valeur, mais que ça soit pas que le système soit pas juste basé sur l'être humain comme tel. Fait que c'est très fin ce que je te raconte là, puis c'est pas clair, tu vas me dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je traque tout ça, je le traque par équipe premièrement, je le traque par channel de communication. Avant même de regarder les chiffres par technicien ou par agent qui va venir beaucoup plus loin dans l'analyse. Puis c'est fait vraiment là, au niveau des KPI, quand on rentre dans la partie plus HR là, de l'être humain, ça devrait être jamais un outil qui sert à valider, c'est-à-dire c'est un outil de coaching, c'est un outil pour regarder, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire ensemble pour s'améliorer, mais la performance d'un employé ne devrait pas être définie exclusivement par des chiffres, des KPI que tu vois. Donc, ce que ça veut dire, c'est je reçois un rapport, tel employé a répondu à 3 fois moins de billets ce mois-ci, oups, je vais aller le rencontrer, je vais l'emmener, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi, peut-être, puis c'est jamais une bonne idée. Puis en plus de ça, c'est pas vrai que ces chiffres-là donnent la vérité non plus, parce que ça se peut qu'il y ait des billets qui soient bien plus complexes pour tel employé, ça se peut, parce qu'il y a un paquet de raisons. Mais ce que je trouve intéressant de faire avec ça, moi, c'est que ça roule des discussions, ça donne une espèce d'idée, voire... Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose qu'on peut aider? Mais sans plus. C'est pas relié à la performance d'un individu. Une performance de l'équipe, ça, j'y crois beaucoup plus. Avec l'équipe, on est capable de beaucoup mieux travailler à la gang, mais d'aller pinpointer un individu. En tout cas, moi, je suis pas rendu là. Je pense pas qu'on va aller jusque-là non plus. C'est pas notre philosophie d'entreprise du tout. Mais voilà, c'est un peu ça que je te répondrais.
J'aime comment tu le partages, puis surtout l'aspect que ça sert à peut-être accompagner la personne puis l'aider à évoluer, mais non pour lui taper sur les doigts puis dire que t'as pas fait une bonne job, parce que je partage la même opinion que toi, que ça veut pas dire que c'est pas une bonne job qu'il fait. Peut-être c'est ce qui va donner une meilleure satisfaction du client puis rétention au final, parce qu'il en fait un peu moins, mais il fait bien à ce moment-là. Non?
Un petit dernier contrat pour te en terminant, ce qu'on appelle le self-serve chez nous, c'est-à-dire sur un certain volume de clients, combien, selon les segments qu'on s'est donnés dans notre clientèle, pour un segment donné, combien qui en ont, qui sont venus sur le site, télécharger une version d'essai, sont allés eux-mêmes aller dans notre portail de Knowledge Base pour garder la documentation, sont allés sur le commerce en ligne, ils ont demandé une quote, ils ont été chercher le funding de leur côté, puis ils ont payé la quote, la soumission en ligne sur notre plateforme, qu'on n'aura jamais parlé. Ça, c'est un autre contrat chez nous. Donc, par segment, savoir quel segment chez nous qui a besoin d'être assisté par les ventes, quels segments sont en mesure de s'auto-self-serve, évidemment, c'est la traduction mot pour mot, mais d'être en mesure de eux d'avoir une mécanique où est-ce qu'on n'a pas besoin de les contacter, que le site web fait la job pour ces gens-là à un niveau où est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes s'auto-gérer, je te dirais.
J'avais jamais entendu ça, puis c'est tellement brillant, parce que j'imagine à partir de là, tu peux dire parfait comment qu'on peut améliorer ce pourcentage-là pour que ce soit beaucoup plus fluide pour les usagers ou les prospects. Puis là, tu peux te donner un target en équipe, OK, on améliore tel site web, on enlève un point de frisson à une place, puis ça, c'est trippant. J'avais jamais entendu cette métrique-là, puis c'est tellement brillant, parce que le but, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le moins de frissons possible, puis que par eux-mêmes, ils soient capables de s'auto-répondre, puis d'être capables d'arriver au final à payer, puis à aller chercher la valeur du système.
Ouais, exact. Puis mais il y a différents types de personas à travers vos clients aussi. Il y a des gens pour qui, surtout en TI, là, que tu connais très bien, il y a beaucoup, le persona des gens en TI, il y a beaucoup, beaucoup de gens là-dedans qui sont peut-être, je ne suis pas allergique là, ou peu importe, mais ils veulent le faire eux-mêmes. Ils sont à l'aise avec les technologies, ils comprennent ce qu'ils lisent, ils n'ont pas besoin d'être tenus par la main. Fait qu'on veut juste s'assurer que pour ce type de personnalité-là, que tout est mis en place pour faciliter leur user experience au point qu'ils n'ont pas besoin de nous contacter pour rien. Fait qu'on le fait vraiment à la base pour dire, c'est ce type d'acheteur-là chez nous. S'ils ne veulent pas nous parler, parfait, on est très à l'aise avec ça, mais on va faire en sorte que vous soyez en mesure de bien servir sur le site web à travers nos différents outils, par contre.
Vraiment pertinent. Max, on est rendu à 17 KPI partagés. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais rajouter aujourd'hui ou un autre flash supplémentaire que tu voulais partager?
Non, nous, je te dirais que ça fait pas mal le tour. En terminant, peut-être... je continue à faire nos travaux ici à l'interne. Je vais vous revenir dans un épisode dans quelques mois peut-être sur notre nouvelle architecture avec notre data center. On va avoir un data lake ou un data warehouse spécifiquement pour tout l'ensemble de nos data qu'on a à l'aspect et des ventes, marketing, support, avec l'aspect financier aussi. On va avoir un outil qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, mais Tableau, qu'on va utiliser comme outil de dashboarding. Fait qu'il y a toute une passe là, qui s'en vient chez nous qui serait peut-être intéressante à regarder ensemble d'ici quelques mois quand on sera prêt. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'apprentissage à travers tout ça, j'ai l'impression. C'est un gros chantier chez nous présentement. Puis on commence, là, mais j'ai comme l'impression que ça va être un beau challenge encore une fois pour l'année qui vient.
Donc, et ça, voilà. Ça va être un plaisir, encore une fois, de vous suivre en continu puis voir l'évolution que vous avez. Si, pour ceux qui nous écoutent, vous vous demandez c'est quoi les outils techno que Devolution utilise, Max a été super généreux dans l'épisode 56 de tout nous expliquer là, qu'est-ce qu'ils utilisent, quel logiciel, qu'est-ce qui a bien été, ils s'en vont vers où. Donc, encore une fois, très transparent de la part de Max et de la gang de Devolution. Maxime, toujours un grand plaisir. Merci de ta générosité. C'est des échanges que j'apprécie beaucoup. Puis, ça sera un plaisir de refaire d'autres épisodes devant nous ensemble. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Bel échange avec Maxime Trottier de Devolution sur les KPI que Devolution suit dans leur entreprise. Fait qu'aspect vente, le taux de réponse des prospects. Donc, quand on les contacte, est-ce qu'ils nous reviennent? Toute la métrique du funnel Bowtie, je vous invite à vous référer à l'épisode qu'on a tourné, Max et moi, dans les derniers mois. le taux de renouvellement d'un client année après année, donc le fameux churn rate en anglais, le dollar net de rétention, donc est-ce que le client dépense plus avec nous année après année parce qu'on a réussi à upseller ou cross-seller nos ventes. Donc, idéalement, ça devrait être en croissance dans une business, une entreprise idéale. Ensuite, la valeur moyenne d'un contrat annualisé et le dollar total signé devant nous. Donc, super intéressant, exemple, si vous avez une entreprise de 1 million de volume d'affaires, mais que vous avez pour 5 millions de dollars signés à l'avance parce que chaque client a signé pour 5 ans, ça devient extrêmement sécurisant au niveau financier pour vous devant vous. Fait que c'est une belle métrique à suivre au niveau vente slash finance. Maintenant, au niveau customer service et support, le Net Promoter Score, même si on a mis des petites démols là-dessus, le CSAT au niveau du Customer Satisfaction, le taux de réponse moyen dans les délais prescrits par l'équipe ou les gens du support, le taux de résolution de cas qui entre dans un délai prescrit. Donc, est-ce qu'on veut s'assurer dans le fond que c'est bien beau qu'on leur a répondu rapidement, mais est-ce que on réussit à résoudre les demandes de support dans un délai qui fait du sens? Et l'autre, le dernier intéressant que Max a apporté, qui est le taux de réponse autonome par segment. Donc, à quel point les clients peuvent être complètement indépendants dans l'ensemble de l'écosystème pour répondre à leurs besoins et répondre à leurs questions et tomber en mode payant au bout de la ligne. Donc voilà, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est un 5 étoiles sur les plateformes de balado que vous connaissez et que vous utilisez. Donc, s'il vous plaît, prenez un petit 5 secondes, ouvrez votre téléphone mobile, allez directement sur la page du balado Pivot et mettez un 5 étoiles et un petit commentaire si jamais vous voulez nous encourager. Ça fait toute la différence. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies.